Bonjour. Pour commencer, j'aimerais remercier les organisateurs pour leur aimable invitation et leur hospitalité. Dans les 20 minutes qui vont suivre, je voudrais faire l'analyse du fardeau que représente le cancer du col de l'utérus à travers le monde, en me concentrant tout spécialement sur les différentes régions définies par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en termes du fardeau total actuel de la maladie, à notre connaissance à ce jour. Je me pencherai brièvement sur la validité des estimations dont nous disposons, sur l'évolution des tendances de la maladie et sur ce qu'il adviendra probablement dans les années à venir. Cette analyse se fera à la lumière de ce que nous savons du taux d'incidence actuel prédominant, de l'explosion démographique attendue et de ce qu'il reste à faire en matière de lutte contre le fardeau de la maladie, qui est aujourd'hui encore une maladie assassine majeure, particulièrement dans les pays à faible risque. Comme vous pouvez le voir ici, selon les estimations pour 2002 du Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, 11 millions de nouveaux cas, tous cancers confondus, sont attendus. 7 millions de décès liés au cancer et 25 millions de personnes seront atteintes de cancer et nécessiteront des soins. Le cancer est un problème d'une importance capitale à travers le monde. Ces estimations proviennent de données en provenance des registres de cancer basés sur la population de différentes parties du monde. Et dans les régions du monde où ces registres n'existent pas, elles sont estimées à partir de registres hospitaliers, de registres de services de pathologie et des données provenant de pays voisins. Bien sûr, les bases de données provenant des registres de cancer de population sont très limitées en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, où moins de 2% de la population est couverte par un tel système, en raison des systèmes de santé peu développés et disposant de peu de moyens. On peut aussi mettre en cause un système d'information peu développé et des dossiers médicaux inexistants, et la liste est encore longue. Environ 11% de la population asiatique est couverte par le registre de cancer de population, tandis que ce chiffre est de 15% en Amérique latine. Nous aimerions donc voir cette proportion évoluer davantage dans les années à venir. Parmi ces 11 millions de cas de cancer, le cancer du col de l'utérus représente environ 5% de la totalité, ce qui signifie que un malade cancéreux sur 21 dans le monde est atteint d'un cancer du col de l'utérus. Ce fardeau est lourd à porter, le cancer du col se situant au 7e rang de l'ensemble des cancers. Voici une carte très connue retraçant la géocancérologie du cancer du col de l'utérus. On remarque des taux d'incidence très élevés pour cette maladie du Sud, dépassant les 30 pour 100 000 cas dans les régions telles que l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. Parmi les 500 000 cas estimés pour l'année 2002, environ 80% surviennent dans les pays en voie de développement et on dénombre une prévalence d'environ 1,4 million de cas dans le monde entier. Comme je l'ai dit précédemment, certaines de ces estimations, en provenance de régions telles que l'Afrique subsaharienne, peuvent être vraiment sous-estimées, se traduisant par une estimation très prudente du fardeau total de la maladie. Ces données proviennent de l'ouvrage Cancer Incidence in Five Continents. Ce livre est un ouvrage de référence pour recueillir des informations sur les taux d'incidence dans le monde entier. C'est un recueil de données de référence qui est publié tous les 5 ans par le CIRC, qui révise et édite les données des registres de cancer de différentes régions du monde. Seules les données répondant à certains critères de précision et de validité sont incluses dans ce volume. Ce volume est le plus récent. Il s'agit du 9e volume publié en 2007. On peut donc se référer au volume 1 à 7 ou 1 à 9 et utiliser les données qui y sont reportées pour différents objectifs et usages. C'est donc l'une des sources faisant office d'autorité dans l'incidence du cancer dans le monde entier. Et ces volumes sont disponibles sur le site du CIRC www.iarc.fr. Ces données sont aussi publiées sous la forme d'un livre. Les données que nous voyons actuellement se réfèrent à la période 1995-2000 et les taux d'incidence les plus élevés sont observés actuellement dans les régions telles que Guanya, au Brésil, où le taux est d'environ 440 000. Si l'on regarde certaines régions d'Afrique du Sud, on observe encore des taux d'incidence très élevés. Certaines régions ont des taux d'incidence faibles et pour la plupart, il s'agit soit de régions du Maghreb qui ont des taux d'incidence très faibles, soit de populations où le taux de dépistage est très élevé. Dans ce contexte, je voudrais faire des affirmations très dogmatiques sur le cancer du col de l'utérus. Il s'agit de la conséquence rare d'une infection virale dont l'évolution est longue, affectant la surface de l'épithélium. L'infection au virus du papillome humain, HPV. C'est une infection persistante due à l'un des 15 types de HPV oncogènes à haut risque qui se traduit par des néoplasies cervicales sur le long terme. La plupart des infections du col de l'utérus par le HPV guérissent d'elles-mêmes au bout de 2 ans. Et seulement 5 à 15% des infections persistent. Dans de rares cas, ces infections persistantes sont à l'origine de néoplasies cervicales. Parmi tous les cancers, il est bien établi qu'il s'agit de celui dont l'histoire naturelle est la mieux comprise. Nous connaissons très bien les états précancéreux, nous connaissons très bien son histoire naturelle, et il est possible d'identifier le cancer au stade préclinique. Et il existe des méthodes de traitement très efficaces pour les différents stades de l'histoire naturelle du cancer. C'est un cancer que nous pouvons particulièrement bien prévenir et traiter. C'est d'ailleurs un cancer pour lequel il existe un fort potentiel d'éradication. Et l'incidence et la mortalité qui en découlent sont fortement influencées par le développement socio-économique et les efforts effectués en matière de prévention et de dépistage. En raison de cette complexité, il existe des scénarios à la fois optimistes et pessimistes. Par exemple, un des scénarios pessimistes émerge de l'Afrique subsaharienne, où, malgré les connaissances que nous venons d'énumérer, la maladie continue malheureusement à faire de nombreuses victimes. Il est vraiment frappant de voir qu'il y a si peu de soutien en faveur de la lutte contre ce cancer, non seulement de la part de la population, mais parmi les politiciens et les organisations professionnelles. En fait, dans la plupart des pays où l'on pense aux droits des femmes en matière de santé publique, on imagine que la mortalité maternelle est la cause principale de mortalité. Et on a investi énormément pour éradiquer ce fléau dans de nombreux pays. On a donc observé une baisse importante de cette mortalité et il existe de nombreux pays à faible ou moyenne ressource où la mortalité du cancer du col de l'utérus dépasse celle de la mortalité maternelle ou bien où la mortalité du cancer du col de l'utérus est égale à la mortalité maternelle. La deuxième maladie est la malnutrition à vie, mais le cancer du col est la première cause de décès parmi les femmes dans le groupe d'âge 35 à 64 ans et n'est que très peu reconnu par les politiciens, les décideurs et rarement soutenu par les organisations professionnelles. Encore une fois, nous connaissons maintenant l'histoire naturelle de la maladie, son étiologie en tant qu'évolution à long terme de l'infection par le HPV, de la surface de l'épithélium, pour ne pas employer l'expression « maladie sexuellement transmissible ». Car à partir de l'instant où l'on parle de maladie sexuellement transmissible, même dans les sociétés les plus avancées, cela crée un énorme problème dans la façon dont on souhaite lutter contre cette maladie et prévenir cette infection. C'est une infection de la surface de l'épithélium, c'est ce qu'il est important de rappeler, et dans les années précédentes, malgré l'ampleur de ce fardeau, le soutien dans la lutte contre le cancer du col à l'échelle mondiale de la part des principales organisations gouvernementales est resté très limité. La fondation Bill et Melinda Gates a beaucoup investi au cours de la dernière décennie dans le dépistage, la prévention et la mise au point de nouveaux tests diagnostiques. Et désormais, la possibilité d'étendre l'application du vaccin aux différents contextes de santé publique. Ils ont donc grandement investi dans ce contexte particulier pour le progrès de la prévention du cancer du col dans le monde entier. En fait, les projections pour 2025, qui ne prennent en compte aucune tendance au niveau de l'incidence, affirment que les taux d'incidence resteront plus ou moins similaires. Mais la croissance de la population est un fait avéré et nous anticipons donc environ 800 000 nouveaux cas de cancer dans le monde entier pour 2025 et environ 440 000 décès. Maintenant, en ce qui concerne la région africaine définie par l'OMS, qui regroupe essentiellement la plupart des pays d'Afrique subsaharienne et que nous voyons ici, on se rend compte que le cancer du col de l'utérus est le premier cancer chez les femmes. Il représente presque un quart de tous les cas de cancer. Dans la région africaine, parmi les 271 000 nouveaux cas estimés, environ 75 000 sont des cas de cancer du col de l'utérus. Une des tendances intéressantes que l'on observe est le rapport très élevé entre les taux d'incidence et de mortalité. On observe l'incidence et la mortalité. Pour 75 000 à 80 000 cas, environ 68 000 cas se traduisent par un décès. On observe donc un taux de mortalité très élevé par rapport à l'incidence. Si l'on a une incidence de 100 nouveaux cas par an et d'environ 80 décès liés au cancer du col en un an, le rapport de l'incidence et de la mortalité est de 0,8, ce qui indique que l'opposé de ce rapport est de 1. Donc 1 moins 0,8, ce qui donne un taux de survie à 5 ans de 20%. De ce fait, dans les zones telles que l'Afrique subsaharienne où il existe une certaine accessibilité et une certaine possibilité d'accès aux services de soins pour les cancers invasifs, comme c'est le cas dans la capitale de l'Ouganda, du Zimbabwe ou de la Zambie, on retrouve un taux de survie à 5 ans de 10 à 15%. On remarque que c'est à peu près ce qu'il se passe aussi dans le cas du cancer du poumon, dans tous les systèmes de santé dans le monde entier. Le rapport de l'incidence et de la mortalité est supérieur à 0,8, ce qui se traduit par un taux de survie à 5 ans pour le cancer du poumon de 5 à 10%, en dépit de tous les progrès effectués. On rencontre une situation similaire pour le cancer du col de l'utérus dans les pays d'Afrique, essentiellement en raison de systèmes de santé extrêmement peu développés. En effet, très peu d'investissements sont effectués en matière de diagnostic, de traitement et de prévention, ce qui aboutit à cette situation. Comme je l'ai dit précédemment, il existe peu de registres de cancers de population qui regroupent les données africaines telles qu'elles sont acceptées dans l'ouvrage du CIRC, Cancer Incidence in Five Continents. Les registres présents, dans au moins 4 à 5 volumes, permettent de recueillir les tendances de l'incidence. Et ce que vous voyez ici est le format définitif. Les données proviennent de pays tels que l'Égypte et l'Algérie, qui sont situés dans des régions du Maghreb où les taux d'incidence sont extrêmement bas. Ils sont de l'ordre de 5 à 6 pour 100 000, voire moins. Puis, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud et l'Afrique centrale ont des taux d'incidence aux alentours de 40 pour 100 000. Dans deux pays situés en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, c'est-à-dire en Ouganda, dont la capitale est Kampala, et au Zimbabwe, dont la capitale est Harare, les taux des trois dernières décennies indiquent qu'il y a une augmentation du taux d'incidence en Afrique. De ce fait, c'est la seule région du monde où les taux restent soit stables, soit sont en augmentation. Voici les données sur le cancer du col de l'utérus concernant la région panaméricaine, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ces données comprennent à la fois les données pour les États-Unis et le Canada. Vous pouvez voir que le cancer du col occupe la 6e position environ. Mais si l'on prend l'Amérique latine, le cancer du col occupe alors la première place. Voici la répartition géographique du cancer du col de l'utérus en Amérique latine. On observe une incidence très élevée dans certaines régions à l'intérieur des pays, avec des taux très élevés en Amérique centrale, et dans des pays tels que la Colombie, le Pérou, l'Équateur, la Bolivie, l'Uruguay et le Paraguay, où les taux d'incidence du cancer sont supérieurs à 35 pour 100 000. Et de ce fait, dans certaines régions rurales d'Amérique latine, les taux d'incidence sont supérieurs à 50 ou 60 pour 100 000 cas. Selon les prévisions, en 2025, il y aura environ 125 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus si la tendance de l'incidence actuelle se maintient. L'Amérique latine est l'une des régions où les gouvernements ont beaucoup investi depuis les années 1970-80 dans le dépistage du cancer du col avec la technique du frottis. Cuba s'est engagée dans un programme national et de vastes programmes ont vu le jour au Costa Rica, au Chili, en Argentine, au Brésil, en Équateur. Et dans de nombreux pays, comme au Mexique, la portée de la couverture de ces programmes est très variable, en particulier lorsque le lien entre le dépistage, le diagnostic et le traitement est extrêmement faible. Ainsi, en dépit du dépistage d'un grand nombre de femmes, je dirais que, dans des pays tels que le Chili, le Costa Rica, le Mexique et le Brésil, plus de 50% des femmes ont été dépistées au moins une fois au cours de leur vie. Malgré cela, le taux d'incidence de la plupart des pays et les taux de mortalité restent stables ou sont en légère baisse. Deux pays ont investi abondamment dans le dépistage. Il s'agit du Chili et du Costa Rica. Jusqu'en 1995, il n'y a eu aucun impact et le programme a été réorganisé plus tard et on a alors observé un déclin rapide de la mortalité à partir de ce moment. Voici les données pour ce qui est de la région Siaro, région d'Asie du Sud-Est, qui est l'une des régions regroupant le plus grand nombre de cas du cancer du col et contribuant largement au fardeau de la maladie dans le monde avec l'Inde, qui représente à elle seule 20% du fardeau mondial. Puis vient la région Pacifique Ouest, WPRO, qui comprend la Chine et d'autres pays de la région de la côte Pacifique, qui est une autre importante région à risque dans le monde en raison de son importante population. Voici les prévisions pour 2025. Il y aura plus de 400 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus dans cette région. La Chine, qui compte 1,4 milliard d'habitants, connaît un modèle de risque assez intéressant. Certaines régions en Chine, telles que les zones montagneuses ou internes, ont un taux de mortalité supérieur de 20 à 25 pour 100 000, ce qui n'est pas correctement reporté dans les registres d'incidence. Les registres de population existent dans la zone Pacifique, comme à Shanghai, Kidong, et dans les endroits où les taux sont extrêmement bas. Il est intéressant de voir, par exemple, à Shanghai, en 1970, que les taux d'incidence étaient similaires à ceux des pays en voie de développement, c'est-à-dire de 35 pour 100 000. Les taux actuels à Shanghai sont de 5 pour 100 000. Comment ce déclin est-il survenu? Ce n'est pas par le biais du dépistage, mais par la vaccination de la population. Il est très intéressant d'observer ces modèles sociaux en Chine. Puis, au sein même de l'Inde, on observe des régions où le risque est plus élevé. Dans de nombreuses régions, notamment dans les zones rurales, le taux d'incidence est supérieur à 20 pour 100 000. Et dans certaines zones, ce taux est supérieur à 40 pour 100 000. Ce sont les données qui proviennent d'un projet d'atlas cartographiant les risques de cancer du col de l'utérus au sein des différentes régions. Voici maintenant les tendances pour l'incidence. Dans la plupart des pays, les taux d'incidence sont en déclin. Dans des endroits comme Singapour, le déclin est de 4% par an, et dans la région d'Asie-Pacifique, où il existe un dépistage opportuniste considérable, dans des pays comme Singapour, la Corée du Sud, la région administrative de Hong Kong et Taïwan, les taux d'incidence chutent à un taux plus rapide, environ 3 à 5% par an. Tandis que dans les pays à risque tels que l'Inde, les taux d'incidence sont en déclin en raison des problèmes socio-économiques de seulement 1% par an. Cependant, malgré tout, les taux de référence sont assez élevés, avoisinant 20 à 25 pour 100 000, notamment en raison de la population nombreuse. Le fardeau total de la maladie est toujours de grande ampleur. Voici l'exemple précis de Singapour où cohabitent trois populations d'ethnies différentes, des Indiens, des Chinois et des Malais. Les tendances des taux d'incidence au sein de ces trois différentes populations sont les suivantes. Les Indiens de Singapour, en 1970, débutent avec les mêmes taux de référence que le reste de l'Inde, la plupart de la population étant originaire du sud de l'Inde, qui est une région à haut risque. Donc, le taux d'incidence était de 30 pour 100 000 en 1970, et ce taux a baissé de nos jours. Le déclin le plus rapide s'observe chez les Indiens de Singapour. Le taux est d'environ 7 pour 100 000 désormais. On a donc assisté à un déclin de 70 à 75%, soit presque le même qu'en Colombie-Britannique dans les années 1950, alors que les taux de référence sont moins élevés chez les Chinois et les Malais de Singapour, mais sans déclin majeur. Ce phénomène est lié à la mise en place de dépistages opportunistes disponibles à Singapour, qui a permis d'énormes progrès pour la prévention du cancer du col au cours de ces dernières années, particulièrement par une bonne couverture. Plus de 85% de la population a été couverte par au moins un dépistage, et il existe un bon recoupement des données entre le dépistage, le diagnostic et le traitement. Finalement, pour en revenir aux îles Pacifiques, qui est encore une fois une zone où le risque est élevé, les populations des petites îles, de la Ménalaisie et de la Polynésie connaissent des taux très élevés, supérieurs à 20 pour 100 000 dans la plupart des îles, et ce, en raison de l'absence de programmes de santé publique. Pour ce qui est de la région européenne, on observe encore en Europe plus de 30 000 cas de cancer du col diagnostiqués, surtout dans les pays les plus développés, mais les taux d'incidence ont baissé énormément au cours des dernières années grâce au programme de dépistage de masse de la population organisé dans différents pays nordiques, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Cependant, ils ne sont pas organisés dans tous les pays et leur fréquence varie. Une fois par an en Allemagne, une fois tous les 5 ans aux Pays-Bas et en Finlande, on observe un surdépistage considérable dans de nombreuses populations, mais les taux ont baissé grâce à un dépistage réussi. Dans la région méditerranéenne de l'Est, qui comprend les régions arabes, la région du Maghreb et l'Afrique, Israël connaît l'un des taux les plus bas, suivi de l'Arabie du Sud, d'Oman, du Koweït, de l'Algérie et de l'Égypte. Tous ces pays enregistrent des taux d'incidence de moins de 5 pour 100 000. Dans ces pays, maintenir un faible taux d'incidence est une priorité et il semble, d'après les données, que le dépistage n'est pas économique par rapport aux investissements financiers mis en œuvre dans ces programmes. Enfin, Voici les données montrant les inégalités du cancer du col de l'utérus au niveau mondial. Voici le taux de survie à 5 ans, basé sur les registres de cancer de population de tous les cas de cancer diagnostiqués entre 1990 et 2000, dans des pays tels que la Corée du Sud, Singapour, Cuba, le Costa Rica et la Gambie. Et pour d'autres pays, les données proviennent de régions urbaines telles que Bombay, Shanghai, Chennai, Bangalore et des capitales de pays tels que le Zimbabwe et l'Ouganda, dont les données ont été projetées sur l'ensemble du pays. Ce que vous observez ici est un taux de survie à 5 ans variant 9 fois, ce qui reflète les énormes différences entre la détection précoce du cancer et celle entre la disponibilité et l'accessibilité des services de santé. Cette disparité peut être supprimée, notamment grâce à des investissements dans les systèmes de santé. Je ne m'attarde pas sur ce point puisque nous l'avons déjà vu en détail au cours de cette conférence. Les HPV de type 16 et 18 représentent donc 65 à 75% des cas de cancer du col de l'utérus. Nous disposons de suffisamment de données provenant d'études d'observation telles que des études cas témoins, d'études de suivi et d'études d'intervention, et bientôt d'essais cliniques de vaccination pour affirmer que l'infection par le HPV est un facteur de cause nécessaire pour que se développe un cancer du col, et que sans cette infection par le HPV, le cancer du col ne peut pas survenir. Nous avons actuellement à notre disposition la vaccination, permettant de prévenir potentiellement 70% des cas de cancer du col dans le monde entier, mais sa mise en œuvre représente un énorme défi. Nous devons retenir la leçon apprise par la vaccination contre l'hépatite B. Le processus permettant d'introduire le vaccin contre l'hépatite B au sein du programme élargi de vaccination, PEV, de plus de 60% des pays a duré presque 25 ans. Je pense qu'avec ce vaccin contre le HPV, nous devons effectuer des progrès considérables en termes de coûts et dans la manière d'atteindre la population si nous souhaitons réduire le délai de temps qui a été observé pour le vaccin contre l'hépatite B. En conclusion, en ce qui concerne le dépistage, nous avons assisté à d'énormes progrès au cours des dernières années. Et le test HPV apparaît comme le test le plus objectif et le plus reproductible. Pour l'instant, la plateforme de test prend de la place et nécessite beaucoup de temps. De plus, elle est onéreuse. Mais de nombreux progrès ont été effectués ces dernières années et des chercheurs dont l'article a été récemment publié dans le Lancet Oncology ont mis au point un nouveau test de dépistage appelé CARE HPV. Grâce au soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, et du programme de technologie appropriée en santé, PAF. Avec ce nouveau test, les résultats sont disponibles en 2h30 et ils devraient coûter moins de 4$ à terme. Il a été développé spécifiquement pour le marché des pays en voie de développement, auquel se présentent de nouvelles opportunités en matière de prévention du cancer du col de l'utérus. Un des changements radicaux qui apparaît dans les services de soins et dans le domaine de la santé publique dans les pays à faibles ressources est le suivant. Il s'agit de dépister la population avec un test simple, rapide et abordable. Pour les femmes dépistées positives, ce test en particulier peut être utilisé en tant que test de triage avec la cytologie cervicale, le frottis, si cette dernière est réalisable, ou par inspection visuelle à l'acide acétique, IVA, si on ne dispose pas de moyens nécessaires pour effectuer une colposcopie ou une cytologie sur place. Ce changement a ouvert la voie à d'autres algorithmes de dépistage pour la prévention du cancer du col de l'utérus en proposant un dépistage unique au cours de la vie de chaque femme âgée de 30 à 39 ans ou 35 et 49 ans, et ce qui a rendu possible la réduction de l'incidence et de la mortalité du cancer du col de l'utérus d'au moins 30%. Des données provenant d'un essai randomisé de dépistage et de traitement mené par le docteur Denis en Afrique du Sud dans un contexte réalisable, ont démontré qu'on obtient une réduction de la prévalence des cancers et des lésions précancéreuses cervicales de l'ordre de 70 à 75% si l'on traite les femmes dépistées positives. Si l'on traite les femmes IVA positives avec la cryothérapie, on peut réduire la prévalence des lésions précancéreuses de 39%. Ces données ont été étayées par la suite par un essai randomisé mené dans le sud de l'Inde avec le dépistage par IVA, unique au cours d'une vie, des femmes entre 30 et 59 ans, réalisées essentiellement par des infirmières. Avec un taux de participation de 60% au dépistage, et de 80% pour la prise en charge des lésions précancéreuses, l'incidence du cancer du col de l'utérus peut être diminuée de 25% et la mortalité de 35%. Et cette protection concerne surtout les femmes préménopausées. Nous voyons donc bien des prévisions du CIRC des années 1980 basées sur des études de modélisation. Un dépistage unique au cours d'une vie avec une participation de 100% au dépistage, au diagnostic et à la prise en charge des lésions peut potentiellement éliminer un tiers des cas de cancer du col de l'utérus. Enfin, des études d'intervention sur le terrain montrent que la prévalence des cancers et des lésions précancéreuses peut être réduite de 25 à 35%. Nous avons effectué un long chemin, il faudra encore beaucoup de soutien, d'investissement dans les services de santé publique pour mettre en œuvre cette philosophie. Merci pour votre attention.